J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher, sauvage. En cavale, hey. J'ai toujours rêvé d'être un gringo pin, chercheur d'or, chasseur de primes, un vrai salaud, hey. Un desperado hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Mmh. Yeah. Un brelan d'as planqué dans la manche, une balle à mettre dans le dos, du beau cow-boy solitaire, mmh. Du héros tombeur de squaw, voleur de chevaux, avoir mon portrait cloué au tableau du shérif, mmh. Just wanted. Un desperado hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Un fier aventurier, fou de chevaucher, sauvage. Lonesome bad boy.
Et oui, c'était Jacques Higelin de son dernier album, c'est le cas de le dire, malheureusement, Lonesome Bad Boy.
Et où on en parle partout dans la presse francophone, entre autres, la chanson française est orpheline de son poète rock le plus flamboyant et une de ses bêtes de scène les plus généreuses. Jacques Higelin est mort vendredi matin à Paris. À l'âge de 77 ans, Aziza, sa femme, Arthur H., Ken Higelin et Isia Higelin ont la douleur d'annoncer la disparition de Jacques Higelin ce matin, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Les étoiles peuvent attendre. C'est Jean-Christophe Laurence qui signe cet article dans la presse d'aujourd'hui. Il est à Paris. Un œil sur les étoiles, l'autre sur notre planète. Hubert Reeves poursuit sa croisade pour l'environnement. La presse a rencontré l'astrophysicien chez lui à Paris pour parler d'un nouveau documentaire dans lequel il tient la vedette, mais aussi de Churchill du Québec et de la vie après la mort. Ça devait être une conversation tranquille, sans interférence, mais ce jour-là, l'actualité prend le dessus. Le scientifique Stephen Hawking est mort la veille et de nombreux médias français sollicitent Hubert Reeves pour une réaction ou un commentaire. Entre deux coups de fil, l'astrophysicien le plus connu de la francophonie a tout de même le temps de parler de « La Terre vue du cœur », un nouveau documentaire sur l'environnement signé Yolande Cadrin-Rossignol, dans lequel il est le personnage central. On dit « parler », mais il faudrait plutôt dire « répéter », tant Reeves, 85 ans, ne cesse de marteler la même chose depuis des années, à savoir que la Terre va mal et que si on continue à la saccager, l'espèce humaine disparaîtra. Il le disait il y a 5 ans, il le disait il y a 10 ans. Il en a lui-même pris conscience de façon très sérieuse dans les années 80-90, après les premiers cris d'alarme du chercheur américain James E. Hansen. La différence est que Reeves se dit aujourd'hui beaucoup moins pessimiste que par le passé. C'est là toute l'essence de son nouveau message. On n'est plus dans la même impression de morosité. On a vu croître le combat pour la restauration. Des événements qui amènent à montrer que la situation n'est pas si désespérée qu'on pense, observe-t-il, assis entre les piles de papier, les statuettes africaines et la dizaine de tableaux qui décorent son salon. On lui fait valoir que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. Il en est conscient. Mais il a choisi de ne pas baisser les bras devant la multiplication de signaux encourageants. Les citoyens s'organisent, de grandes entreprises révisent leur logique, les énergies renouvelables prennent de l'essor à grande vitesse. L'éducation fait son œuvre, l'écologie est désormais solvable dans l'économie. L'avenir dépend de comment cette prise de conscience va se généraliser. L'idée, c'est de continuer même si on sait que ça ne marchera peut-être pas, dit Hubert Reeves, et de citer l'exemple de Churchill dont il se dit un grand admirateur. Au début des années 40, quand on pensait que le nazisme allait détruire la civilisation, Churchill est celui qui a dit « Non, je ne laisserai jamais la civilisation être démolie. » C'est la même chose qu'il faut se dire aujourd'hui. « Je ne laisserai jamais l'humanité être détruite par ses propres méfaits. On ne sait pas si ça va marcher, mais on fait comme si. Ce n'est pas une attitude intellectuelle, c'est une attitude affective. » Un carillon digne de la série X-Files retentit. C'est son téléphone. Il répond « Donne une autre entrevue. » Toujours ce ton affable, ce roulement de R à l'ancienne qui le rend immédiatement reconnaissable. Puis il raccroche et nous revient. On lui demande si la Terre l'intéresse désormais plus que les étoiles qui ont longtemps été au centre de ses recherches et de son œuvre de vulgarisation scientifique. « Je m'intéresse toujours aux deux, dit-il. Mais dans le cas de l'écologie, il y a une urgence, alors que les étoiles, elles, peuvent attendre encore un peu. » On aime ses formules de poète, son absence de prétention, de pontification. On aime l'écouter, et lui, visiblement, semble toujours heureux de faire partager son savoir au plus grand nombre. Cela dit, il semble qu'on l'avait un peu oublié. Depuis qu'il vit à temps plein en France, c'est-à-dire depuis 5 ans, l'astrophysicien est médiatiquement moins présent au Québec. Que fait-il de ses journées? À quoi ressemble sa vie parisienne? Je lis beaucoup, j'écris, je prends des marches le long de la Seine, je vais parfois au cinéma. Il passe aussi du temps dans sa maison de Malicorne, en Bourgogne, où il plonge dans ce que les Japonais appellent des bains d'arbres. Pour moi, c'est une façon de me ressourcer. Forcément, on parle du temps qui passe, ou plutôt qui fuit. La vieillesse? Je ne suis pas contre. Il y a des avantages, répond-il. Et après, l'idée le laisse moins serein. On est à quelques années d'un autre aspect. On ne sait absolument pas à quoi on sera confronté. Alors, bien sûr, il y a de l'angoisse. Qu'il vous arrive quelque chose de totalement inconnu est quand même préoccupant. Pour autant, il ne croit pas plus en Dieu et ajoute, comme il l'a souvent dit, que ces églises sont les salles de concert. Quand j'écoute de la musique, je pense parfois qu'il y a quelque chose de sublime au-delà. C'est ce qui me laisse penser qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais quoi? God knows. La Terre vue du cœur prendra l'affiche au Québec le 13 avril. Quand le cinéma rend hommage à deux voix marquantes d'Amérique du Sud, Chavela Vargas et Mercedes Sosa seront à l'honneur du 9e Festival du cinéma latino-américain de Montréal. Par la musique, on découvre toute la culture d'un pays ou d'une région. Ensuite, par le cinéma, on l'approfondit. Roland Smith, créateur et programmateur du Festival du cinéma latino-américain de Montréal, conclut ainsi notre entrevue, lui qui, cette année, met à l'honneur de sa programmation deux voix célèbres et engagées d'Amérique du Sud, Chavela Vargas et Mercedes Sosa. C'est un article dans Le Devoir d'aujourd'hui de Katia Tobar. Je vous en lis un extrait. C'est avec le documentaire biographique Chavela, présenté en première québécoise, que s'ouvrira cette 9e édition du FCLM, donc le Festival du cinéma latino-américain de Montréal, organisé au cinéma du Parc du 6 au 15 avril. Composé de rares images de Frida Kahlo et de Pedro Almodovar, le film retrace la vie de cette figure marquante de la musique mexicaine, Ranchera, cette amoureuse éperdue qui a inspiré de nombreux récits romantiques. Celle qui portait des pantalons comme un homme et qui soulageait son trac de scène en buvant de l'alcool, une dépendance qui la rongera. Le FCLM présentera au total 10 films en langue espagnole lors de 19 diffusions sous-titrées en français ou en anglais. Pour Roland Smith, donner une place au cinéma international permet d'éclairer le public sur les enjeux sociaux et politiques qui nous entourent. Le cinéma devient de plus en plus international, mais pas encore au Québec. C'est une véritable disette à l'extérieur de Montréal, un grave manque, dit Roland Smith. Le festival aura lieu donc au cinéma du Parc du 6 au 15 avril. Jusqu'à dimanche, 5300 jeunes de 6 à 12 ans se rencontrent pour des compétitions en 29 sports. Pour y assister et les encourager, rendez-vous sur le site et choisissez votre sport et votre lieu. Il y a des fans zones au Centre Pierre Charbonneau, au Centre sportif Claude Robillard et au Complexe sportif Saint-Laurent. La cérémonie de clôture aura lieu dimanche à 14h30 au Complexe sportif Claude Robillard. Avec l'animateur jeunesse Pascal Morissette, on parle ici des Jeux de Montréal. Et pour terminer cette portion culturelle, demain, le samedi 7 avril, la 11e édition du populaire Ciné-Bazar se tient de 9h à 16h au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est. Comme toujours, on y trouvera des marchands de films, DVD, cassettes vidéo, d'affiches, de bandes sonores, de magazines, de photos et d'autres objets qui feront la joie tant des cinéphiles que des collectionneurs. La présidente sortante de la SODEC, Monique Simard, sera aussi sur place avec des DVD du stock de production Virage, entreprise qu'elle avait cofondée avec son défunt mari, Marcel Simard. Au total, plusieurs dizaines d'exposants seront sur place.
À la sortie de la villa, juste après l'orage, tu as trébuché, j'ai démarré, on a pris le large. Quitter les rivages, quitter les indélicatesses. L'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. C'est le cœur. La beauté de l'amour.
Collaboration de deux des enfants de Jacques Higelin, Arthur H. et Isia, qui nous chantaient « La beauté de l'amour » que l'on retrouve sur l'album « Baba Love » d'Arthur H.
Et Arthur H. sera au Francofolie de cet été à Montréal. J'imagine qu'il va certainement chanter des chansons en hommage à son paternel, Jacques Higelin, qui nous a quittés à 77 ans. On a appris ça ce matin. Libre, Rima El-Khoury, un article intitulé « Merci de patienter encore 40 ans ». André Leclerc est un homme patient et déterminé. Mais 40 ans à cogner à la porte d'un commerce ou d'un bureau inaccessible, avouez que ça commence à être un peu long. Atteint de paralysie cérébrale, André Leclerc se décrit lui-même comme une tête de pioche. Président fondateur de Kéroul, organisme voué depuis 1979 à l'amélioration de l'accessibilité universelle en tourisme, il a besoin de l'être. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années alors qu'il m'avait invité à le rencontrer avec sa gang de PC en fauteuil roulant. Des gens atteints de paralysie cérébrale comme lui qui travaillent, contribuent à la société et démontrent les idées reçues sur leurs conditions. Le grand public le connaît aussi sans le savoir. C'est lui qui, en 1988, a inspiré le numéro de « l'handicapé » entre guillemets de l'humoriste Jean-Marc Parent. Si André Leclerc et d'autres défenseurs des droits des personnes handicapées s'impatientent, c'est que les décennies passent et que l'inaccessibilité reste, en dépit des progrès réalisés pour rendre la société plus inclusive. Dans la foulée de l'adoption en 1975 de la Charte des droits et libertés du Québec qui interdisait la discrimination fondée sur le handicap, des mesures visant l'accessibilité des bâtiments ont été inscrites dans le Code de la construction. En 1978, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées a été adoptée. Cette loi, qui prévoyait l'adoption d'un règlement pour rendre accessibles des bâtiments construits avant 1976, plaçait le Québec à l'avant-garde en matière d'inclusion des personnes handicapées. Le hic, c'est que 40 ans plus tard, ce règlement n'a toujours pas été adopté. Alors que l'Ontario s'est engagé à être accessible à tous dès 2025, le Québec, lui, traîne encore les pieds. Des lois avant-gardistes, c'est très bien, mais un peu plus de cohérence, ce serait encore mieux. Car à quoi bon une loi si elle n'est pas appliquée, se demande André Leclerc. Les lois fondamentales des années 70 resteront des écrans de fumée, tant et aussi longtemps que les dispositions réglementaires conséquentes n'auront pas été adoptées et appliquées. André Leclerc se réjouit des mesures récentes annoncées par le gouvernement en matière d'accessibilité, comme ce programme de subvention à l'accessibilité des établissements touristiques, dont la gestion a été confiée à Kéroul, ou cet autre programme de subvention à l'accessibilité des petits commerces qui sera administré par la Société d'habitation du Québec. Mais on reste malgré tout très loin de l'accessibilité universelle promise il y a plus de 40 ans. Le Code de construction inclut encore aujourd'hui des exceptions qui font en sorte que trop de bâtiments demeurent inaccessibles aux personnes handicapées. Les commerces de moins de 300 mètres carrés ou les bâtiments d'affaires de 2 étages et moins font partie de ces exceptions. Comment est-ce encore possible en 2018 de construire de nouveaux bâtiments qui ne soient pas accessibles à tous? Ce qui n'est pas accessible n'est pas acceptable. Telle est la devise qui devrait valoir pour tous les nouveaux bâtiments et les espaces ouverts au public, croit André Leclerc. Malheureusement, au lieu d'adopter les mesures qui s'imposent, le gouvernement laisse aux personnes handicapées le fardeau de porter plainte à la Commission des droits de la personne contre les commerces qui leur sont inaccessibles. C'est interminable. Ça en devient décourageant, dit Linda Gauthier, cofondatrice du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, qui, sans subvention aucune depuis près de 10 ans, se bat bec et ongle pour l'accessibilité universelle et voit les plaintes s'accumuler sur son bureau. Après que des commerçants du plateau Mont-Royal eurent reçu des plaintes du RAPLIC, Charles-Olivier Mercier de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal s'est dit qu'il fallait trouver une façon de faire les choses autrement. « J'ai lunché avec Linda. On s'est dit « travaillons ensemble ». De ce lunch est né à la fin de l'année 2015 une alliance originale entre des gens d'affaires et des organismes représentant des personnes handicapées, le Regroupement pour l'accessibilité des établissements commerciaux et d'affaires du Québec. On sent qu'on a un rôle à jouer comme acteur économique, dit Charles-Olivier Mercier. Au-delà des enjeux commerciaux, aucun commerçant n'a intérêt à se priver d'une clientèle. Il y a là une question de principe qui l'interpelle. Il souhaite à son tour interpeller l'État pour qu'il prenne ses responsabilités en matière d'accessibilité universelle. C'est un peu comme si on faisait face à une inondation. On a une digue réglementaire. Mais il manque des sacs de sable, dit Charles-Olivier Mercier de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal. D'où l'importance d'éliminer les exclusions prévues au Code de construction et d'offrir des mesures incitatives plus généreuses aux commerçants pour colmater les brèches. Lorsqu'on parle d'accessibilité, certains ont l'impression que c'est un problème qui ne concerne qu'une toute petite minorité de citoyens, mais en fait, cela concerne tout le monde, parce qu'on vieillit tous. Parce qu'on peut être parent de jeunes enfants, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Moi, j'étais à des années-lumière de savoir que ça allait m'arriver, me dit Linda Gauthier, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive en 1996 et doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. Qu'attend le gouvernement pour agir? En ce qui concerne les bâtiments construits avant 1976, nous sommes au fait du problème. Des pistes de solutions concrètes sont en cours d'évaluation, me dit Clémence Beaulieu-Gendron, attachée de presse de la ministre responsable de l'habitation, Lise Thériault. Même réponse reçue par courriel quant à l'annulation des exceptions prévues au Code de construction. Nous sommes au fait des enjeux découlant des exceptions comprises dans le Code de la construction concernant l'accessibilité des petits commerces. La Régie du bâtiment du Québec se penche présentement sur différentes pistes de solutions. Traduction libre de Linda Gauthier de ses réponses polies, qui n'en sont pas vraiment. C'est comme dire « on analysera ça dans 40 ans ». Votre appel est important pour nous. Merci de patienter. Les droits des personnes handicapées, en principe, personne n'est contre, bien sûr. On a vu l'indignation provoquée ces derniers jours par la décision de Walmart de mettre fin à un programme d'inclusion. Saine indignation qui n'est malheureusement pas toujours suivie de saine décision politique. L'Université de Montréal compte à rebours pour le campus de la gare de Triage, le nouveau campus des sciences de l'Université de Montréal qui occupe le site de l'ancienne gare de Triage d'Outremont, accueillera professeurs et étudiants dans moins d'un an et demi. Visite guidée avec des photos dans la presse aujourd'hui, le chantier de 350 millions de dollars visait la certification environnementale LEED, L-E-E-D. Or, avec les hottes, il a fallu installer des récupérateurs de chaleur pour l'air chaud qu'on envoie dehors, explique l'architecte Annick Schooner. On avait des restrictions aussi au chapitre de la hauteur. Avec les laboratoires scientifiques LED, or, c'était beaucoup de travail. Alors, c'est LED, or. Les deux édifices qui ouvriront leurs portes à l'automne 2019 abriteront respectivement les activités de recherche et d'enseignement des facultés de chimie, de physique, de biologie et de géographie. On fêtera en 2020 le centenaire du département de chimie et on a prévu le faire dans le grand atrium, explique la chimiste Andrea Schmitzer, qui est aussi vice-doyenne aux infrastructures et responsable du déménagement vers le nouveau campus. Les laboratoires de chimie ont dû être installés au troisième étage de manière que les solvants inflammables ne soient pas trop hauts pour les pompiers. Ça aurait été plus simple pour les hottes et les tuyaux d'évacuation de l'air des labos si les labos de chimie avaient été plus hauts, mais on s'est adapté, dit l'architecte Annick Schooner. L'intersection du boulevard de l'Acadie et de la rue Beaumont est très achalandée et peu pratique pour les piétons. Il est impossible de construire un passage souterrain vers le métro L'Acadie sous la rue Beaumont en raison des servitudes, explique l'ingénieur Alain Boilard, directeur général affecté au développement du campus MIL. Je sais qu'il y aura un réaménagement de toute l'intersection. C'est déjà tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 6 avril 2018. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et vous pouvez aussi nous écouter sur notre site Internet à Canal M de Vues et Voix. Un grand merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde et au choix musical. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Ici Hélène Denis qui vous dit à lundi.